durant le court trajet, il questionna Pascal sur Charles, d'un air d'intérêt paternel qui cachait une inquiétude croissante. Le docteur, gêné par les regards impérieux de sa mère, adoucit la vérité. Mon Dieu, l'enfant n'était pas d'une santé bien forte. C'était même pour cela qu'on le laissait volontiers des semaines chez l'oncle à la campagne. Cependant, il ne souffrait d'aucune maladie caractérisée. Pascal n'ajouta pas qu'il avait, un instant, fait le rêve de lui donner de la cervelle et des muscles, en le traitant par les injections de substances nerveuses. Mais il s'était heurté à un continuel accident. Les moindres piqûres déterminaient chez le petit des hémorragies, qu'il fallait chaque fois arrêter par des pansements compressifs. C'était un relâchement des tissus dû à la dégénérescence, une rosée de sang qui perlait à la peau. C'était surtout des saignements de nez, si brusques, si abondants, qu'on n'osait pas le laisser seul, dans la crainte que tout le sang de ses veines ne coulât. Et le docteur finit en disant que, si l'intelligence était pas espérée, qu'elle se développerait dans un milieu d'activité cérébrale plus vive. On était arrivé devant l'asile. Macquart, qui écoutait, descendit du siège en disant « C'est un gamin bien doux, bien doux. Et puis, il est si beau, un ange. » Maxime, pâli encore et grelottant malgré la chaleur étouffante, ne posa plus de questions. Il regardait les vastes bâtiments de l'asile, les ailes des différents quartiers, séparés par des jardins, celui des hommes et celui des femmes, celui des fous tranquilles et des fous furieux. Une grande propreté régnait, une morne solitude que traversaient des pas et des bruits de clés. Le vieux Macquart connaissait tous les gardiens. D'ailleurs, les portes s'ouvrirent devant le docteur Pascal, qu'on avait autorisé à soigner certains des internés. On suivit une galerie, on tourna dans une autre. C'était là, une des chambres du rez-de-chaussée, une pièce tapissée d'un papier clair, meublée simplement d'un lit, d'une armoire, d'une table, d'un fauteuil et de deux chaises. La gardienne, qui ne devait jamais quitter sa pensionnaire, venait justement de s'absenter. Et il n'y avait, aux deux bords de la table, que la folle, rigide dans son fauteuil, et que l'enfant, sur une chaise, absorbé, en train de découper des images. « Entrez, entrez !» répétait Macquart. « Oh, il n'y a pas de danger, elle est bien gentille !» L'ancêtre, Adélaïde Fouque, que ses petits-enfants, toute la race qui avait pullulé, nommait du surnom caressant de « Tante Dide », ne tourna pas même la tête au bruit. Dès la jeunesse, des troubles hystériques l'avaient déséquilibrée. Ardente, passionnée d'amour, secouée de crise, elle était ainsi arrivée au grand âge de 83 ans, lorsqu'une affreuse douleur, un choc moral terrible l'avait jetée à la démence. Depuis lors, depuis 21 ans, c'était chez elle un arrêt de l'intelligence, un affaiblissement brusque, rendant toute réparation impossible. Aujourd'hui, à 104 ans, elle vivait toujours, ainsi qu'une oubliée, une démente calme, au cerveau ossifié, chez qui la folie pouvait rester indéfiniment stationnaire, sans amener la mort. Cependant, la sénilité était venue, lui avait peu à peu atrophié les muscles. Sa chair était comme mangée par l'âge. La peau seule demeurait sur les os, à ce point qu'il fallait la porter de son lit à son fauteuil. Et, squelette jauni, desséché là, tel qu'un arbre séculaire dont il ne reste que l'écorce, elle se tenait pourtant droite contre le dossier du fauteuil, n'ayant plus que les yeux de vivant dans son mince et long visage. Elle regardait Charles fixement. Clotilde, un peu tremblante, s'était approchée. « Tante Dide, c'est nous qui avons voulu vous voir. Vous ne me reconnaissez donc pas ? Votre petite fille qui vient parfois vous embrasser. » Mais la folle ne parut pas entendre. Ses regards ne quittaient point l'enfant, dont les ciseaux achevaient de découper une image, un roi de pourpre au manteau d'or. « Voyons, maman, dit à son tour Macquart, ne fais pas la bête, tu peux bien nous regarder. Voilà un monsieur, un petit-fils à toi, qui arrive de Paris exprès. » À cette voix, tante Dide finit par tourner la tête. Elle promena lentement ses yeux vides et clairs sur eux tous, puis elle les ramena sur Charles et retomba dans sa contemplation. Personne ne parlait plus. Depuis le terrible choc qu'elle a reçu, expliqua enfin Pascal à voix basse, elle est ainsi. Toute intelligence, tout souvenir paraît aboli en elle. Le plus souvent, elle se tait. Parfois, elle a un flot bégayé de paroles indistinctes. Elle rit, elle pleure sans motif. Elle est une chose que rien n'affecte. Et pourtant, je n'oserais dire que la nuit soit absolue, que des souvenirs ne restent pas emmagasinés au fond. Ah, la pauvre vieille mère, comme je la plains, si elle n'en est pas encore à l'anéantissement final. À quoi peut-elle penser depuis 21 ans, si elle se souvient ? D'un geste, il écarta ce passé affreux qu'il connaissait. Il la revoyait, jeune, grande créature, mince et pâle, aux yeux effarés, veuve tout de suite de Rougon, du lourd jardinier qu'elle avait voulu pour mari, se jetant avant la fin de son deuil au bras du contrebandier Macquart, qu'elle aimait d'un amour de louve et qu'elle n'épousait même pas. Elle avait ainsi vécu 15 ans avec un enfant légitime et de bâtard, au milieu du vacarme et du caprice, disparaissant pendant des semaines, revenant meurtrie, les bras noirs. Puis, Macquart était mort d'un coup de feu, abattu comme un chien par un gendarme. Et, sous ce premier choc, elle s'était figée, ne gardant déjà de vivant que ses yeux d'eau de source, dans sa face blême, se retirant du monde au fond de la masure que son amant lui avait laissée, y menant pendant 40 années l'existence d'une nonne que traversaient d'épouvantables crises nerveuses. Mais l'autre choc